Le podcast La Chamane est un espace de réflexion libre qui jette un regard hors du commun sur des sujets et des problématiques de tous les jours. Médiumnité, chamanisme, psychologie, neurosciences, intuition, santé holistique et j'en passe. Je suis Amy Gale, votre chamane qui décortique avec vous de nombreux sujets qui ont un impact profond sur nos vies. Toujours avec comme mission la croissance spirituelle et l'épanouissement de chacun.
Allô! Je vous présente aujourd'hui un court épisode qui va faire suite à l'épisode 26 qui portait sur la cohérence. Donc, je vous ai lu dans l'épisode un extrait du livre The Source Field Investigations de David Wilcock. J'avais envie de poursuivre avec plus d'extraits. Donc, ça va être un court épisode qui rajoute du contenu par rapport à la cohérence et aussi par rapport au livre et aux recherches de David Wilcock. Alors, je vais vous lire un premier chapitre qui s'intitule « Guérir le monde en se guérissant soi-même ». Sur une période de 2 ans, des groupes réunissant environ 7000 personnes se sont rassemblés à 3 reprises et durant ces rencontres, ces gens ont réussi à réduire de plus de 72% le nombre d'actes terrorisme dans le monde. Ce qui est tout de même assez phénoménal. De toute évidence, la valeur tactique d'une telle stratégie gagnante serait d'une importance capitale du point de vue de la sécurité nationale. Ces gens étaient-ils des diplomates, des politiciens ou des planificateurs militaires préparant leur prochaine offensive? S'agissait-il de militants pacifistes plongeant dans les tranchées sous une grêle de balles pour sauver des vies? S'agissait-il de manifestants rassemblés devant les édifices gouvernementaux pour exiger un quelconque changement? Qu'ont-ils fait juste? La réponse pourrait bien transformer tout ce que vous croyez savoir sur la façon dont l'univers fonctionne. Ces personnes se sont réunies afin de méditer ensemble et d'envoyer des pensées d'amour et de paix. Gardez à l'esprit qu'il s'agissait d'une étude scientifique publiée dans le journal of Offender Rehabilitation. Les auteurs de cette étude ont tenu compte de divers facteurs comme les cycles, la tendance, la météo, les week-ends, les jours fériés et toutes les autres variantes ayant pu influencer le résultat. Et selon eux, il est clair que cette diminution de 72% du terrorisme mondial ne pouvait s'expliquer que par l'influence de ces méditations collectives et par rien d'autre. Dans un autre exemple du même genre, la criminalité violente à Washington, D.C., diminua de plus de 23,6% sur une période de 2 mois à l'été 93, alors que le nombre de participants à de telles méditations passait de 800 à 4000. Et ce, en dépit du fait que les crimes violents avaient augmenté avant le début des méditations. Dès leur expérience terminée, le taux de criminalité commença à remonter. La probabilité que cet effet puisse avoir été causé par une variante aléatoire des taux de criminalité était inférieure à 2 chances sur 1 milliard. Et encore là, tous les facteurs, météo, week-end, activités policières et communautaires, anticriminalité, ont été écartés comme non pertinents. Déjà en 1993, 50 études scientifiques avaient démontré, hors de tout doute, que cet effet existe réellement. Elles ont été publiées dans de grandes revues, évaluées par des pairs, et elles ont démontré que les efforts conjugués de ces méditants avaient été à l'origine d'améliorations observées sur le plan de la santé et de la qualité de vie des populations étudiées. L'effet de ces méditations avait également entraîné une baisse du nombre d'accidents, de la criminalité des conflits militaires et d'autres facteurs semblables. Selon moi, cet effet existe parce que, dans une certaine mesure, nous partageons tous la même conscience. Il semble y avoir un équilibre entre les pensées et les informations privées que nous acquérons directement à partir du champ unitaire. Rappelons-nous aussi que les expériences de l'Institut HeartMath, dans lequel des personnes ayant la plus grande cohérence influençaient les ondes cérébrales et le biorhythme d'autres personnes qui étaient proches d'elles. Si 7000 personnes peuvent réduire de 72% le terrorisme dans le monde entier, cela donne à penser que le champ unitaire est nettement biaisé en faveur des émotions positives plutôt que négatives. Par conséquent, la prochaine fois que quelqu'un vous dira qu'il n'y a plus d'espoir, que nous allons tous mourir, ou bien que, selon un rêve ou une prophétie, nous serions impuissants à changer quoi que ce soit à notre avenir en ce monde, je vous recommande fortement de ne pas tomber dans le piège de laisser une telle peur sans visage s'emparer de vous. Il est scientifiquement démontré que par le seul fait d'entretenir une attitude positive dans la vie, vous contribuez à réduire la guerre, le terrorisme, la souffrance et la mort. Donc, déjà un de mes extraits préférés qui m'avait énormément marqué à ma première lecture. Je vais continuer avec un autre extrait. Est-ce possible que des humains qui envoient de l'énergie à des bactéries, à des plantes, à des animaux et à d'autres humains en améliorent la santé? C'est exactement ce que le docteur Daniel Bennor a découvert après avoir analysé 191 études contrôlées de guérison spirituelle. Étonnamment, 64% de ces études montraient des effets statistiquement significatifs, y compris celles où le travail de guérison était effectué à une grande distance. N'oublions pas toutefois que 46% des études ne paraissaient montrer aucun effet guérisseur. Ainsi, lorsque des articles sur le sujet paraissent dans les médias traditionnels, on y décrit les expériences qui ont échoué et on conclut que ces effets n'existent pas. C'est tout simplement inexact. Alexandra David Neel a visité le Tibet dans les années 30 et elle a décrit ses observations étonnantes dans son ouvrage classique de 1929, Mystique et magicien du Tibet. Entre autres phénomènes fascinants dont elle a été témoin et dont nous parlerons plus loin, les moines tibétains lui ont expliqué que toutes leurs aptitudes mystiques leur venaient de leur capacité à utiliser les ondes d'énergie par la méditation. Le secret de l'entraînement psychique consiste à développer un pouvoir de concentration de l'esprit qui dépasse grandement même celui des hommes qui sont naturellement les plus doués à cet égard. Les maîtres mystiques affirment qu'une telle concentration mentale produit des ondes énergétiques que l'on peut utiliser de diverses façons. Ils croient que cette énergie est produite chaque fois qu'a lieu une action physique ou mentale. Donc, en rendant nos pensées plus cohérentes, nous pouvons augmenter notre capacité d'accéder au champ unitaire et en déterminer le flux. C'est là un point très important car il permet d'expliquer pourquoi tant d'anciennes traditions spirituelles accordent une grande importance à la méditation. Revenons maintenant aux 7000 méditants qui ont réduit de 72% le terrorisme mondial. Ils semblent l'avoir fait en créant de la cohérence dans le champ unitaire, ce qui affecte directement l'esprit du monde puisque nous partageons tous la même conscience. Voilà vraiment une nouvelle vision fascinante de nous-mêmes et du monde. Je vous lis un autre extrait. Les limites de la conscience partagée. Des troubles mineurs de l'anxiété, comme la nervosité et l'incapacité à se concentrer, ont également été sensiblement atténués lors de recherches réalisées par le Dr Broad. Dans une expérience effectuée en 1983, Broad et un anthropologue du nom de Marilyn Schlint ont mené une étude comparative entre un groupe de personnes très nerveuses et un groupe de personnes plus calmes. Dans ce cas, la nervosité des participants de chaque groupe pouvait être directement mesurée grâce à leur réaction galvanique épidermique, c'est-à-dire par le niveau d'activité électrique de leur peau. Pour certaines expériences, des techniques de relaxation ordinaires ont été enseignées aux participants et on leur a demandé de s'en servir pour se calmer. Dans d'autres cas, Broad et Schlitz ont tenté de les calmer en se concentrant simplement sur les volontaires à partir d'une autre pièce. Chez le groupe de personnes qui étaient déjà calmes, très peu de changements ont été observés, que ce soit en pratiquant les exercices de relaxation ou en étant influencé à distance. Mais le groupe d'individus nerveux est devenu beaucoup plus calme dans les deux cas. Étonnamment, les effets de l'influence à distance sur le groupe de personnes nerveuses a donné des résultats presque aussi bons que les exercices de relaxation qu'elles ont elles-mêmes pratiqués. De même, Lorsque Brode et Schlitz se concentraient à distance sur un sujet afin de l'aider à focaliser son attention, sa capacité à se concentrer s'améliorait immédiatement. Les gens dont l'esprit était le plus sujet à être facilement distrait étaient ceux qui bénéficiaient le plus de ce processus. Heureusement, Brode a également découvert que nous ne sommes pas sans défense contre ces influences à distance, puisque nous pouvons nous protéger contre celles que nous ne voulons pas subir. Si vous visualisez un bouclier protecteur, un coffre-fort, une barrière ou un écran mental, ce qui vous convient le mieux, vous pouvez en effet empêcher ces influences de vous affecter. Les personnes qui tentaient d'exercer une influence à distance ne savaient pas lesquelles parmi les participants essayaient de bloquer leurs pensées. Mais ceux qui ont ainsi tenté de se protéger y sont parvenus. D'autres observations semblent indiquer qu'une attitude positive dans la vie constitue notre meilleure protection. Comme nous allons le voir, c'est la cohérence la plus élevée qui l'emporte. J'aime tellement ça. On continue. Ici, l'ADN réagit perceptiblement à la conscience humaine. Le docteur Glenn Wren, un biochimiste diplômé de l'Université de Londres, a fait de stupéfiantes découvertes qui révèlent comment se comporte l'ADN en réagissant directement à la conscience humaine. Tout d'abord, il se déroule quand une cellule est sur le point de se diviser, ou qu'elle a été endommagée quand elle est morte. Et il s'enroule quand elle travaille pour se réparer et guérir. On peut calculer directement dans quelle mesure il se déroule ou s'enroule par la qualité de son absorption de la lumière à la fréquence de 260 nanomètres. Pour ces expériences remarquables, le docteur Wren a prélevé de l'ADN vivant dans un mélange de placenta humain. Puis, il a mis dans de l'eau déionisée. Il a ensuite placé le tout dans un gobelet. Diverses personnes ont alors tenté de dérouler ou d'enrouler l'ADN par le simple pouvoir de la pensée, en se concentrant intensément. Les échantillons témoins sur lesquels personne n'a tenté quoi que ce soit ne se sont modifiés que de 1,1%, tandis que les échantillons traités se sont modifiés dans une mesure de 2 à 10%. Cela signifie que nos pensées seules ont à tout le moins deux fois plus d'effet sur l'enroulement de l'ADN humain. Fait plus intéressant encore, ce sont les émetteurs, dont les ondes cérébrales étaient les plus cohérentes, qui avaient le plus de facilité à modifier la structure de l'ADN. Inversement, un individu qui était particulièrement perturbé et dont les ondes cérébrales étaient très incohérentes a produit un changement anormal, où la lumière ultraviolette dans l'ADN absorbait. Ce changement s'est produit à une longueur d'onde de 310 nanomètres, ce qui est proche de la valeur magique de 380 établie par POP, la même fréquence qui peut causer le cancer quand on la brouille. Cet individu irrité a aussi fait s'enrouler l'ADN plus fortement. Il s'agissait là de deux effets très inhabituels. Selon Wren, ce changement opéré dans la lumière à 310 nanomètres pourrait simplement vouloir dire qu'il s'est produit une altération de la structure physico-chimique de l'une ou de plusieurs bases de la molécule d'ADN. Cela signifie que nos pensées peuvent réellement modifier chimiquement la structure de la molécule d'ADN. En plus de la faire s'enrouler ou se dérouler, voilà la preuve microbiologique de la connexion entre les pensées colériques et la croissance des cellules cancéreuses. Ces implications sont tout aussi importantes que les effets guérisseurs. N'oublions pas que nous pouvons protéger d'importants influx de photons dans un espace protégé électromagnétiquement lorsque nous observons à distance cet endroit avec précision. Comme nous l'avons vu au chapitre 4, il se pourrait bien que ces photons contiennent de l'information génétique pouvant restructurer l'ADN des autres individus et restaurer leur santé. Dans un autre cas, lorsque l'ADN fut placé en présence de gens qui produisaient de la cohérence dans leurs ondes cérébrales, mais qui n'essayaient pas de modifier l'ADN, aucun changement n'avait lieu dans l'enroulement ou le déroulement de l'échantillon d'ADN. Cela semble fortement indiquer que l'intention consciente des gens produisait ces effets. le docteur Liu Schildre fut capable de faire s'enrouler ou se dérouler l'ADN dans le laboratoire californien du docteur Ren depuis sa maison de Moscou, située à des milliers de kilomètres de distance, pendant une période de 30 minutes. Selon Ren, l'amour est la qualité essentielle de cette énergie qui peut générer de la cohérence dans les ondes cérébrales et affecter directement l'ADN. Bien que les techniques employées par divers guérisseurs soient assez variées, elles semblent toutes requérir une focalisation du cœur. Les implications sont énormes. Le champ unitaire semble responsable de la création de l'ADN fantôme ou du stockage de la lumière dans la molécule d'ADN. Tout d'abord, les expériences du Dr. Ren indiquent que nos pensées modifient l'ADN fantôme. Ensuite, nous constatons qu'elles peuvent modifier la molécule d'ADN. Enfin, nous savons maintenant que l'amour est la qualité émotionnelle la plus importante du champ unitaire. Le Dr. Ren a prouvé que l'amour exerce un effet direct et mesurable sur l'ADN, très probablement par le même processus énergétique qui crée l'ADN fantôme. Une meilleure cohérence, une meilleure organisation, une meilleure structure et une meilleure cristallisation. Tous ces effets nous montrent que les champs énergétiques, les molécules et les cellules de notre corps travaillent en plus grande harmonie et dans une plus grande unité. Pour la première fois, nous obtenons une définition scientifique de l'amour. Il ne s'agit pas strictement d'un concept émotionnel et biologique abstrait, comme les substances chimiques produisent dans le cerveau lorsque nous mangeons du chocolat, ou comme l'impulsion génétique de nous reproduire. Nous pouvons maintenant voir l'amour comme un principe fondamental de l'énergie universelle. Plus nous possédons de cohérence, de structure et d'harmonie, plus l'amour est présent. C'est beau! Ouais, ce que je me dis depuis quelques années, c'est quoi le but de la vie? C'est l'amour. Il y a juste une chose. Puis plus on est là-dedans, plus on va comprendre les choses, plus on va être bien entouré, plus tout ce qu'on va projeter, tout ce qu'on va réaliser, plus de choses, tout va juste être beaucoup plus simple. Quand il parle de l'ADN fantôme, juste pour vous situer, parce qu'il n'en parlait pas précédemment dans les extraits que j'ai lus, c'est dans des recherches en fait où on se rendait compte que l'ADN serait stocké aussi dans le champ de conscience unitaire. Donc, on pouvait influencer l'ADN. En fait, on pouvait restaurer l'ADN d'un individu à partir d'un stockage qui serait fantôme, donc on n'a pas trouvé, en fait. Puis c'était avec une certaine fréquence, donc il en parle vaguement là, dans l'extrait. Mais c'est pour vous situer un petit peu si vous vous demandez c'était quoi, parce que ça n'a pas été expliqué. Je termine avec une dernière, un dernier extrait qui est assez rapide. Nous nous sommes tous déjà trouvés en présence de gens qui bouffent notre énergie. On les appelle même parfois des vampires énergétiques, bien que ce terme soit terriblement dur et irrespectueux. Il nous est facile de réagir de manière exagérée une fois que l'on sait ce genre de choses et d'accuser alors les autres de nous voler notre énergie. Toutefois, cela ne nous rend pas nécessairement service d'un point de vue spirituel, car nous renforçons ainsi l'idée que notre énergie est limitée et qu'elle peut nous être enlevée. Je crois plutôt que le champ unitaire contient une énergie illimitée. Si nous nous sentons vides, nous pouvons nous remplir de nouveau en nous mettant dans un état de cohérence. L'amour qui vient du cœur et qui calme l'esprit nous régénère activement en très peu de temps. Pour faire suite à ça, il y a deux choses qui me viennent en tête. D'abord, je vous ai déjà mentionné que j'avais un coach. Je suis déjà allée dans un salon spirituel où il était là, puis vous savez, dans les salons, il y a beaucoup de personnes souffrantes, parce que il y a des gens qui vont bien aussi, mais parfois on va là parce qu'on cherche des réponses à des états qui sont très lourds pour nous. Fait qu'on retrouve toutes sortes de personnes qui ont besoin de beaucoup d'amour et de guérison. Puis je me souviens, étant très sensible, j'étais au kiosque de mon coach, en train juste de discuter ou de l'écouter parler, je ne me souviens plus. Mais il y a quelqu'un qui est arrivé, puis je sentais tellement... Je sentais une agression sur moi, puis je sais, c'est quelque chose que déjà je travaillais pour arrêter d'avoir comme réaction par rapport aux gens, tu sais, arrêter de réagir en jugement ou en une forme d'irritation. Puis après, je lui ai dit, j'avais l'impression qu'elle voulait prendre mon énergie, puis il dit « Ouais, mais laisse-la faire. » Ça va pas... C'est illimité, cela, là! Puis j'étais comme « Ah, oh, ouais, hein? » Puis malheureusement, c'est énormément répandu dans tout le monde spirituel, l'idée qu'on doit garder notre énergie, que notre énergie est limitée. Et je vous ai fait un épisode dans la deuxième saison sur le design humain, ceux qui ont envie d'aller écouter. Et vous savez, moi, selon le design humain, je suis un projecteur, donc je suis un être qui ne crée pas d'énergie. Oui, j'ai de l'énergie, mais un générateur, par exemple, a beaucoup, beaucoup d'énergie, puis il doit l'utiliser, puis les autres peuvent même se greffer à son énergie pour en avoir, ce qui n'est pas du vampirisme, c'est une aura qui a beaucoup d'énergie. Mais moi, mon aura, elle ne donne pas nécessairement d'énergie, mais pourtant, j'en ai, là. Puis j'ai pas besoin d'avoir peur que quelqu'un m'envole, parce que tout ce que j'ai à faire pour retrouver de l'énergie, c'est de me mettre dans mon cœur. Quand j'ai fait mon niveau 1 de Reiki, je me souviens, notre maître nous avait dessiné l'image de l'énergie qui entre dans le corps, en fait. Puis, elle rentre d'abord par la fontanelle, mais il y a un courant qui traverse tout le corps, puis qui va aller au cœur pour ensuite être redistribué. Donc, il va aller au cœur pour ensuite aller vers les bras, puis parce que le Reiki se fait par le toucher, ou à distance aussi, mais ce serait le même principe. Donc... À ce moment-là, j'ai compris, je me suis dit... Parce qu'il nous disait de visualiser une lumière, il nous disait d'imaginer une lumière blanche ou même violette, quand on faisait les soins. Mais quand j'ai vu l'image du cœur, je me suis dit, tout ce que j'ai à faire, c'est de ressentir le plus d'amour, le plus de bonté, le plus de douceur possible dans mon cœur. Puis j'ai commencé très rapidement à envoyer du Reiki à distance, à ma sœur, par exemple, pour commencer, puis à certaines amies. Puis, il y a un certain moment, le mot s'est passé à travers des amis dans un groupe sur lequel je suis sur Internet. Et on me demandait d'envoyer du Reiki à leur... Les gens me demandaient d'envoyer du Reiki à leurs enfants, puis ils voyaient un effet immédiat. Du genre, les enfants étaient hyperactifs, ils voulaient pas aller se coucher, puis tout d'un coup, ils devenaient super calmes. Puis là, j'ai appris des techniques pour envoyer du Reiki à distance dans les niveaux suivants. Mais la façon intuitive que je le faisais fonctionnait parce que tout ce que je faisais, c'était sentir mon cœur chaud, puis respirer, avoir une respiration consciente, puis envoyer ça à la personne. Puis toujours, on me dit, ma sœur, parfois, elle était stressée parce qu'elle allait faire... elle avait quelque chose au travail qui se passait, puis je lui envoyais, puis elle me disait, waouh, j'ai tellement senti, j'ai senti les frissons, tu sais. Juste parce que, puis c'est pas parce que juste moi qui est capable de faire ça, ce que je veux dire, c'est que ça passe vraiment par l'amour. Puis si vous vous sentez fatigué, c'est sûr, des fois notre corps a besoin de se reposer. Ça m'arrive de dormir, j'aime ça dormir. Mais prenez juste le temps de calmer votre cœur, puis de continuer à envoyer de l'amour. Puis c'est sûr que pour moi, j'ai vu une différence quand j'ai commencé le Reiki. Donc, si vous avez envie de faire une initiation, une technique énergétique, ça peut vous aider aussi. Pour moi, je pense que c'est indissociable de ma progression dans les dernières années. Une autre chose à laquelle je pensais aussi, c'est j'aime beaucoup les enseignements de Sadhguru. Il y a plein de vidéos, il y a même des podcasts qui sont disponibles si ça vous intéresse. Puis, il enseigne le yoga, mais la philosophie du yoga. Puis il y a un truc dont il parlait, en fait, c'est... En anglais, c'était « being at ease », donc être dans un état de calme, mais tu sais, c'est dur de traduire ce mot-là, je trouve, en français, de repos, d'apaisement. Puis il faisait le pont avec « disease », c'est la maladie qui vient juste du fait qu'on n'est pas dans cet état-là. Puis je trouve que ça fait bien suite au dernier extrait que je viens de lire, et à l'extrait précédent aussi, qui parlait juste d'amour, d'être bien, tu sais. Fait que, tu sais, si vous sentez que vous êtes... Tu sais, c'est sûr que ça se pratique, là, vraiment, mais plus vous allez être dans un état détendu, d'accueil, d'amour, plus votre énergie va être équilibrée, présente, vous allez vous sentir moins fatigué. Donc, c'est à pratiquer. Puis plus vous allez avoir d'amour pour vous, plus vous allez pouvoir être cohérent aussi dans vos actions et dans vos pensées. Alors, c'était la suite que j'avais envie de vous partager par rapport à l'épisode sur la cohérence. Comme vous voyez, c'est un thème que j'aime énormément. Puis ces temps-ci, j'y pense à tous les jours. Ah, est-ce que ce que je fais est cohérent? Ou bien je constate tout ce qui est cohérent dans ma vie. Je vous invite à faire cet exercice-là. Vous pouvez écrire aussi, prendre un temps. Puis des fois, tu sais, on a envie de changer les choses dans notre vie, puis on n'ose pas. Ben prenez le temps vraiment de faire un exercice sur qu'est-ce qui est cohérent dans votre vie. Et j'ai déjà hâte de vous retrouver. J'ai hâte à la semaine prochaine. Officiellement, l'épisode est déjà enregistré, donc je peux vous assurer qu'il y aura un épisode mercredi prochain. Donc, soit mardi soir, le 18 janvier, ou mercredi, le 19 janvier, il va être publié. Alors, prenez soin de vous d'ici là. J'ai hâte de vous retrouver.